Histoire d'archives sur Fréquence Mistral d'Digne-les-Bains sur le 99.3 et internet www.fréquencemistral.com. Bonjour Jean-Christophe Labadie.
Bonjour.
Vous avez une invitée comme la fois précédente pour votre émission.
Oui, en effet, donc je ne suis pas venu tout seul, effectivement, puisque je suis venu accompagné de Laure Franek, qui est donc la directrice adjointe des archives départementales.
Alors de quoi allez-vous parler aujourd'hui, car l'activité est riche en ce moment?
Alors c'est vrai, en même temps elle est riche et elle est un peu différente puisque nous sommes fermés depuis maintenant 15 jours. Chaque année, nous fermons le service des archives départementales pour faire des travaux, on va dire des travaux un peu lourds. Et en particulier dans notre cas, ce sont des travaux qui concernent le réaménagement des magasins d'archives, donc l'endroit où sont conservées les boîtes d'archives, car nous avons des problèmes de place. Comme quasiment tous les services d'archives départementales, et nous essayons donc de rationaliser un petit peu nos espaces, donc de remplir un peu plus nos magasins, de déplacer aussi des collections qui n'ont pas lieu d'être conservées avec des conditions d'hygrométrie et de température qu'on réserve aux archives, en particulier donc tout ce qui concerne les ouvrages de bibliothèque, qui sont des ouvrages récents. Et que nous installons en fait dans de nouveaux locaux qu'on réaménage. Donc le but étant de gagner le plus de mètres linéaires possible. Et donc chaque année, depuis maintenant 5 ans, nous réussissons à gagner environ 250 mètres linéaires par an. Alors évidemment, c'est un peu la loi des rendements décroissants, c'est-à-dire qu'au début, on en gagne beaucoup. La sixième année, en 2017, ben, c'est un peu plus difficile, donc on sera évidemment en dessous des 250 mètres. Mais nous comptons quand même gagner au moins 100-150 mètres, ce qui nous permet donc d'accueillir ensuite les versements d'archives publiques, puisque là, j'ai fait un petit peu le compte pour... l'année 2016, puisque c'est aussi la période des bilans, vous savez, hein, le mois de janvier, on fait donc une série de comptes rendus et de bilans. Et nous avons, en l'occurrence, à faire un bilan pour le service interministériel des archives de France. Et j'ai compté des versements de 250 mètres linéaires. Donc, vous voyez, en réalité, on a plus, les versements sont supérieurs à la place qu'on gagne, ce qui veut donc dire que le bâtiment se remplit de plus en plus.
Vous n'êtes pas obligé de faire de tranchées.
Non, pas du tout, non. Mais en fait, on fait vraiment des gros travaux. Enfin, on se rend pas compte. Hein, c'est de monter des étagères, parce qu'on monte des étagères, hein, vraiment. Alors, c'est vrai que les années précédentes, les deux dernières années, on avait monté des rayonnages mobiles hein, qui permettent de gagner de la place. C'est-à-dire, en fait, dans un espace, par rapport à des rayonnages fixes, évidemment, on gagne en fait l'écart entre chaque rayonnage. Là, cette année. C'est fait, donc on a plus cette possibilité-là. Et donc on est vraiment, effectivement, alors c'est pas une guerre de tranchées, mais c'est vraiment une guerre on essaie de gagner des mètres, oui, un peu, hein, c'est quand même un peu l'idée. C'est pas une guerre de mouvement, c'est vraiment une guerre de position. Et chaque mètre gagné est un mètre bienvenu, parce que c'est vrai que nous avons vraiment besoin d'espace pour conserver, dans les meilleures conditions possibles, les archives publiques.
Et à terme, si vous n'avez plus d'espace, vous allez être obligé de vous agrandir, comment ça va se passer?
Alors, oui, comme tous les bâtiments d'archives. En fait, c'est vraiment, vous savez, c'est toujours très compliqué de... on a un bâtiment qui est finalement assez récent, hein, puisqu'il date des années 90, donc il est même très récent à l'échelle des bâtiments publics. Et c'est vrai que quand on le programme, comme dans beaucoup de services d'archives et dans beaucoup de départements, en fait, hein, quand on a, alors il faut remonter aux années 80 en fait, hein, quand on a transféré la compétence archives départementales, qui était une compétence de l'État, vers les conseils généraux à l'époque, transfert qui a été effectif donc au 1er janvier 1986, la situation n'était pas très glorieuse pour les archives. C'est-à-dire qu'en fait, les bâtiments étaient souvent anciens, c'était souvent d'ailleurs des bâtiments patrimoniaux, quelquefois qui n'avaient même pas été construits pour des archives, c'était pas des bâtiments d'archives, ce qui n'était pas vrai dans les Basses-Alpes de l'époque, hein, puisque quand on a construit le bâtiment d'archives dans les années 1870, il était vraiment fait pour conserver des archives. Donc c'était pas un cas très particulier. Mais c'est vrai que ces bâtiments étaient totalement saturés, on savait plus où les mettre, et donc les conseils généraux ont vraiment engagé en France une grande opération, et en particulier donc la construction de nouveaux bâtiments d'archives, donc ce qui est le cas ici, donc dans les Alpes de Provence. Et puis À l'époque, on avait une autre vision, en fait. On pensait, d'une part, qu'il y aurait de plus en plus de lecteurs qui viendraient consulter les archives départementales, car c'est vrai que depuis les années 70, il y avait une inflation. C'est la vague généalogique. Hein, les recherches généalogiques ont pris vraiment de l'ampleur dans ces années-là. Et donc, on avait vraiment une surfréquentation des services d'archives qui était, à l'origine, plutôt réservée soit à des fonctionnaires qui venaient chercher des informations, soit surtout à des érudits, vous voyez, à des chercheurs. Voilà, et donc on avait des petits espaces de consultation. Moi-même qui ai fréquenté les services à cette époque-là, on avait 5 tables dans un coin, vous voyez, et donc peu de personnes venaient. Et puis il y a eu cette vague qui est arrivée. Et donc quand on a fait les programmes pour construire des bâtiments, on s'est dit, évidemment, il faut de la place pour les visiteurs. Et puis, en plus, il y avait un autre phénomène qui se développait, qui était la dimension patrimoniale des archives. Hein. C'est-à-dire que les archives, c'est d'abord un service administratif, en vérité. Et puis, c'est aussi un service où, finalement, ce qu'on conserve, ce n'est pas l'objet lui-même qui est intéressant, c'est le contenu de l'objet. Hein, puisque c'est le papier, et sur le papier, ce qui est intéressant, c'est ce qui est écrit sur le papier. Voilà. À la différence d'un musée où, vraiment, l'objet compte, vous voyez, c'est tout à fait différent. Or, cette dimension patrimoniale, évidemment, c'est étendu aussi aux archives. C'est-à-dire que maintenant, les archives, c'est pas seulement l'information que supporte le document, mais c'est aussi le document. Et donc, du coup, cette dimension patrimoniale a fait que, en plus de la vague généalogique, a fait qu'on s'est dit qu'il serait vraiment très intéressant de développer la partie valorisation des archives, hein, et donc de donner des espaces d'exposition importants. C'est ce que vous avez d'ailleurs dans le service des archives départementales des Alpes-de-Provence, c'est-à-dire qu'une salle de lecture qui est très très grande, et puis un lieu donc d'exposition qui est évidemment considérable à l'échelle d'un service d'un département comme les Alpes-de-Provence. Voilà. Inversement, pour la conservation, on pensait que on a sous-estimé la production d'archives papier. C'est-à-dire qu'en fait, on a pensé que cette production, qui était quand même importante, hein, dans les années 60, 70, 80, qu'elle allait se tarir. Et d'ailleurs, alors, c'est vrai qu'à l'époque, on était déjà dans les années 90, et on pensait que l'informatique, d'ailleurs, allait régler une partie du problème. Hein, donc, au fond, ce qu'on appelle aujourd'hui la dématérialisation. Hein, donc, en fait, on travaille directement en natif informatique. Or, en réalité, l'informatique a fait exactement l'effet inverse. Et ce qui fait donc qu'on a... donc, ça a produit beaucoup de papier, beaucoup plus qu'auparavant. Alors, il y a aussi, je l'ai déjà évoqué, la question de la complexification de l'administration, des procédures, etc., évidemment, hein, qui produisent aussi, hein, de fait, beaucoup de papier. Et ce qui fait qu'on a eu des services où on a surdimensionné la partie publique et on a sous-dimensionné la partie conservation. Voilà. Et c'est exactement ce qu'on a ici, mais ce qui est vrai ailleurs. Et ce qui fait que chaque année, il y a au moins entre 5 et 10 départements qui sont dans des problématiques d'extension d'archives. Et c'est exactement d'ailleurs la problématique que nous connaissons, hein, puisqu'effectivement, dans le projet initial, il était prévu une extension des archives départementales. Et bien, on est dans cette logique-là et on est en train effectivement d'engager une réflexion autour, hein, avec un programmiste, etc. Enfin, il y a une procédure pour envisager donc effectivement une augmentation. Alors, pour passer, en fait, en gros, aujourd'hui, enfin, à l'origine, on avait 10 km. Avec nos travaux de réaménagement, on est plutôt à 11,5 km. Et l'objectif est de rajouter 5 km linéaires. Voilà. Et avec 5 km linéaires, on pense, hein, mais on pense que on résoudra au moins pour un certain temps cette question des versements d'archives papier. Mais ce n'est pas sûr. Enfin, c'est toujours très compliqué parce qu'en réalité, on ne sait pas ce que les archives, ce que les services de l'État, les services départementaux, tous les producteurs d'archives publiques, puisqu'il n'y a pas qu'eux, on ne sait pas ce qu'ils ont chez eux. Et donc, il est très difficile, en fait, d'imaginer les versements qu'ils pourraient avoir. Vous savez, à 250 mètres par an, ça va très vite, en fait. Hein. Donc, c'est très difficile, en fait, de se projeter pour réfléchir, effectivement, à ce qui peut arriver. Alors, nous, on a l'avantage, c'est qu'on ne refuse pas de versement. Hein. Il y a des départements où depuis des années il n'y a plus de versement, ce qui fait que donc les services d'archives, les services producteurs accumulent les archives, et au moment où l'extension a lieu ou le bâtiment nouveau sort de terre, il se remplit à une vitesse très très rapide puisque évidemment tout le monde a attendu. Vous voyez, donc il y a un effet tampon qui est important. C'est pas le cas ici. Hein. Ici vraiment, on fait en sorte d'accepter tous les versements, on ne refuse aucun versement et on trouve des solutions à chaque fois. Voilà. Donc pour le moment tout va bien, hein, mais effectivement c'est un sujet brûlant pour nous.
Et du fait d'organiser des expositions régulièrement, ça vous donne un surcroît de travail pour ça ?
Alors, les expositions. Alors, voilà, ça c'est dans la mission des archives. Vous avez raison. Hein, au départ, quand on allait dans un service d'archives dans les années 70-80, le directeur, qu'est-ce qu'il faisait ? En gros, il classait des archives. Hein, il classait des archives en général modernes, d'ailleurs. Hein, donc, post-révolutionnaires jusqu'en 1940, hein, dans la tranche chronologique pour les archivistes. Et puis, il faisait un travail essentiellement administratif, d'inspection, d'aide aux services, vous voyez, etc. Voilà, il était dans cette logique-là, et puis surtout, il y avait très peu de personnel. C'était des très petits services. Il y avait en gros un directeur, une secrétaire, un archiviste adjoint, on appelait un sous-archiviste à l'époque, puisque le directeur était un archiviste, hein, c'était son titre, archiviste départemental. Et puis, il y avait quelques personnes, et avec les années 80, le personnel a commencé à augmenter, et puis avec la décentralisation, il a effectivement augmenté encore plus, d'autant que effectivement, on a, je crois, plus rationalisé hein, la gestion des archives entre les producteurs et les archives départementales qui accueillent les archives définitives. Et puis, il y a effectivement cette dimension qui prend de plus en plus de place, qui était d'ailleurs à la base une dimension éducative. Ce sont les archives nationales qui ont créé le premier service éducatif en France, hein, dans un service patrimonial. C'est les années 50, je crois. Vraiment, ça, c'est de mémoire. Vérifier, mais je crois me souvenir que c'est les années 50. Et ça existait dans tous les services d'archives départementales. Hein. Ce service éducatif existait, on accueillait des classes. Mais c'était, je veux dire, un travail sur papier, sur originaux ou sur reproduction, vous voyez, un peu comme à l'école, des travaux pratiques, vous voyez, travaux dirigés, etc. Ça, c'était la première dimension où on avait un public un peu différent hein, qui venait. Cette dimension-là s'est très largement développée. Et d'ailleurs, vient d'être produit à la fin 2016 un rapport sur l'action éducative dans les services d'archives départementales en France, hein, où les archives départementales d'ailleurs des Alpes-de-Provence figurent en bonne position, puisqu'on a, une politique quand même très active dans ce domaine-là depuis longtemps, hein, depuis les années 2000. Et puis, la dimension exposition, publication s'est ajoutée. Alors, il y avait toujours des petites expositions qui étaient faites, mais c'était des expositions un petit peu à usage pédagogique. Quoi. C'est-à-dire, en fait, en gros, c'était un panneau, on collait des facsimilés de documents, on mettait des titres, c'était presque fait à la main, vous voyez. Enfin, c'était vraiment un peu artisanal, quoi. C'était des supports pédagogiques, en fait. Et c'est vrai que de plus en plus, les services d'archives départementales sont orientés vers une politique d'ouverture au public, à travers effectivement ces archives. Et ça, c'est effectivement très chronophage. Mais en réalité, quand on regarde le temps de travail de chaque agent, on est 22 hein, dans le service, eh bien en réalité, ça concerne très peu d'agents. En fait, la plupart des agents, en fait, sont en dehors hein, de ce cycle éducatif et culturel et travaillent vraiment sur vraiment un travail administratif. Hein, c'est-à-dire qu'en gros, vous voyez, donc, je suis toujours dans mon bilan annuel. Aide aux services, aide au versement, aide aux éliminations. Plus d'un kilomètre 4 d'archives ont été éliminées dans le département. Donc il faut imaginer, vous voyez les ramettes posées sur la tranche, et vous faites pour un kilomètre 4, ouais, donc une masse considérable, c'est beaucoup plus que l'année d'avant où on était 1 km 1, donc 300 mètres de plus. Voilà, donc tout ce travail-là est fait par les agents et c'est vraiment une grande partie de leur activité.
Et là, il va y avoir une nouvelle exposition à partir de la semaine prochaine. Il y a votre collègue qui, juste à côté de vous, qui va pouvoir en dire un petit peu deux mots.
Alors, c'est pas une exposition. Jeudi 26 janvier à 18h, Éric Fabre va présenter le livre qu'on a publié. Et alors, La vie rurale en Haute-Provence, de la fin du XVIIe siècle au milieu du XXe siècle, au milieu du
20e. Vous n'êtes pas trompé.
Voilà, je ne suis pas trompé. Alors, Éric Fabre est bien connu de nos services. Hein, c'est un de nos lecteurs assidus. Il est enseignant-chercheur à l'université d'Aix-Marseille. Et il a soutenu son mémoire d'habilitation à diriger des recherches en mémoire moderne et contemporaine en 2013 sur le thème donc, de la vie rurale en Haute-Provence. Et nous publions donc l'intégralité de son texte, hors les annexes documentaires. Voilà, donc ça fait un gros pavé de 813 pages qui vient juste de sortir au moment de Noël et que Eric Fab va nous présenter jeudi 26 janvier à 18h aux archives.
Est-ce qu'il va y avoir un lien avec l'exposition par rapport à ce que mangeaient les personnes au 19e siècle ?
Alors en réalité, l'exposition repas, enfin, sur repas des humbles, repas des riches, est en partie issue du travail d'Éric Fabre, pas seulement, hein, mais c'est vrai que ces deux événements se font écho.
Et dans le livre qu'il présentera, il y aura des anciens témoignages de personnes qui avaient pu relater ce qui se passait à ce moment-là ?
Ah ben c'est vraiment 10 ans de dépouillement d'archives, alors dans les Alpes de Provence, mais pas seulement. Oui, c'est vraiment une mine d'informations sur comment vivaient les bas alpins grosse période chronologique.
Mais ouais. Il n'y a pas de témoignage. Ouais. Parce qu'en fait, c'est un travail. C'est un travail d'historien.
Un historien
en général. C'est pas un ethnologue. Un ethnologue, il travaillerait sur le témoignage. Et d'ailleurs, pour les repas, on a utilisé des ouvrages d'ethnologie, hein, où effectivement, dans les années 50, je crois, 60 peut-être, un ethnologue avait travaillé sur des repas donc qui étaient à base d'une enquête orale hein, donc et qui avait comme démarche donc d'aller à la rencontre des personnes et leur demandant comment ils réalisaient les repas à partir de quels produits et quelles étaient les recettes. Donc tout ça effectivement ça c'est vraiment un travail d'ethnologue. Éric Fabre c'est un historien et un historien en général. Travaille sur des archives ou des publications anciennes, hein, c'est variable, mais là on a un vrai travail d'archives classique. C'est-à-dire, en gros, 10 ans de fréquentation du service des archives départementales et la consultation de milliers de documents, tout ça pour en faire une analyse et une synthèse qui est donc proposée. Alors c'est un peu drôle de dire une synthèse de 800. 13 pages, hein, évidemment, ça paraît c'est une grosse synthèse, hein, évidemment. En fait, en réalité, effectivement, c'est un mélange des deux, hein, puisqu'il y a des analyses très pointues sur des sujets très variés. Alors, comme c'est la vie rurale, bah, ça va de l'élevage, la production agricole, la propriété, etc. Et comme la période est assez longue, hein, puisqu'on court sur 3 siècles, évidemment, ça donne un très gros volume que personne ne lira de la première page à la dernière page, évidemment, ce genre d'ouvrage, en fait, c'est plutôt une approche par chapitre, vous voyez, une partie, une période, une partie qui intéresse, par exemple, l'élevage des moutons, si vous voulez, hein, pour être plus clair. Et donc, chacun picorera, vous voyez, prendre une métaphore agricole, picorera dans cette thèse qui a demandé un très très gros travail et qui a été réalisé par Madame Franek et par Jean-Marc Delaye, parce que ce sont vraiment les deux se sont investis dans ce projet.
Oui, parce que notre service présente vraiment la particularité de faire tout en interne en ce qui concerne les expositions et la publication, hormis la partie purement impression. Et c'est vrai que c'est une ressource non négligeable. Donc on a fait un travail d'éditeur, vraiment, puisqu'il a fallu reprendre le texte initial, corriger toutes les imperfections typographiques, corriger parfois les fautes qui étaient encore, et repenser toute la maquette pour donner un véritable ouvrage et pas seulement un tapuscrit de 2 volumes, quoi.
Pour donner une touche personnelle, il y a une part de romancier ou de romancière qui peut intervenir ?
Ah, pas du tout. On ne réécrit pas. Vraiment sur des très très courts passages qui ne sont pas très compréhensibles. Mais non, il n'y a pas de réécriture. Hein. C'est vraiment le texte initial. Et non, il n'y a pas de travail de romancier.
Non, c'est vraiment le texte d'Éric Fabre, vraiment. Alors on a supprimé, effectivement, on n'a pas pu publier certaines annexes, hein, qui étaient très longues, des tableaux, des cartes.
Alors les cartes, en fait, enfin les tableaux, on les a publiés.
On les a mis dans le texte.
Voilà. Ouais. Mais il avait tout un volume de documentation complémentaire qui était aussi épais que le volume de texte, donc ça, c'était pas possible de le publié.
Voilà, parce qu'il faut être réaliste. En fait, déjà 800, plus de 800 pages, c'est déjà énorme. Et on a vraiment tenté de réduire au maximum, disons, la partie, comment dire, bibliographique et des sources hein, pour que ça tienne le moins de place possible. On avait pensé même faire un index qui aurait été très utile dans un ouvrage aussi volumineux, mais ça aurait été un travail considérable et qui aurait rajouté beaucoup de pages aussi. Donc on a vraiment été... l'idée, c'est vraiment d'être fidèle au texte. Et en fait, vous savez, quand on publie quelque chose, l'éditeur en fait, hein, un travail d'édition, donc effectivement, Madame Franek demandait effectivement des éclaircissements sur certains points, vous voyez, donc il y a eu des corrections qui ont été apportées, hein, et même sur le fond d'ailleurs, hein, quelques petites choses qui ont été reprises, parce que vous imaginez dans un tel volume, écrit dans un temps donné quand même, hein, puisque c'est dans le cadre universitaire, puisque c'est un travail qui permet, enfin cette habitation est très importante, parce que ça permet en fait un enseignant à l'université de pouvoir diriger des travaux de recherche et en particulier des travaux de doctorat. Donc évidemment, il y a une exigence qui est très très forte. Donc ce texte qui est effectivement un tapuscrit, donc hein, quelque chose qui est un peu qui a encore quelques scories, si vous voulez. Hein. Donc il a fallu effectivement le reprendre. Et surtout, on avait sous-estimé, en fait, hein, je crois, nous, hein, de notre côté, le travail que ça représentait. En fait, ça représentait des mois de travail, alors pas en continu, évidemment, hein, mais pour déjà la simple relecture, parce qu'on ne se rend pas compte de relire autant de pages. Donc il y a eu ce travail-là, le travail de mise en forme, car il y a un appareil critique qui est très important. L'appareil critique, ce sont les notes, en fait, hein, essentiellement. Donc il a fallu reprendre tout ça. Donc en gros, vous ne pouvez pas reprendre la mise en page qu'ils disent déjà. Hein, vous ne pouvez pas la reproduire telle qu'elle. On l'a fait en facsimilé. Il faut vraiment tout refaire avec des normes homogènes, vous voyez, pour tout l'ouvrage. Et c'était vraiment très, très compliqué. Donc c'est vraiment un énorme travail et on est très contents. C'est un ouvrage d'ailleurs qu'on propose à la vente hein, au prix de 15 euros. Hein, il est disponible aux archives départementales. Il suffit de nous écrire, de nous demander l'ouvrage et d'envoyer un chèque de 15 euros à l'ordre du Trésor public. Voilà. Et donc, et on le renvoie. Il n'y a pas de frais de port. Les frais de port sont compris dans le prix et donc on l'envoie directement aux personnes qui sont intéressées. Et on en a déjà vendu. C'est très étonnant car on n'a fait aucune publicité autour. On l'a mis sur le site internet et on a déjà reçu plusieurs dizaines, je crois, de chèques, hein, avec simplement l'information mise sur le site internet des archives départementales. Donc vraiment, on est très contents parce que c'est après...
Et l'invitation.
Voilà, et l'invitation, oui. C'est une vraie gageure hein, de publier un ouvrage aussi volumineux qui est aussi, comment dire, qui pourrait être difficile d'approche, vous voyez, d'accès. Hein. On peut penser que, comme c'est un travail universitaire, que ça n'intéressera pas forcément le grand public, et bien ce n'est pas vrai. C'est exactement l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que je crois que les gens sont très curieux de l'histoire de l'endroit où ils vivent. Ils ont vraiment envie de connaître ce qui s'est passé. Et que finalement, un document, un travail universitaire, ben est adapté à cette demande et permet d'apporter des réponses. Alors c'est vrai aussi qu'on a fait en sorte de le rendre le plus agréable possible, quand même, hein, dans sa présentation. On a vraiment fait un travail, enfin, c'est Mme Franek et Jean-Marc Delaye et M. Delaye qui ont vraiment fait ce travail pour le rendre le plus agréable possible. Et on a mis une belle image sur la couverture, mais c'est la seule. Hein, donc de Saint-Marcel et Séric, hein, donc de ce photographe, de cet érudit photographe de Sisteron, une image donc qui est faite aux alentours de Sisteron, qui date de la fin du 19e, qui est l'image de couverture, mais il n'y a pas d'image à l'intérieur. Alors pourquoi ? Pas parce que ça aurait augmenté encore le volume de pages. Et puis, ce qu'on ne voulait pas faire, parce qu'on y a pensé à mettre des images, évidemment, parce qu'on avait les images, hein, mais on s'est dit, en fait, ça serait une mauvaise idée, parce que, d'abord, un, ça augmenterait le volume, effectivement, et deux, les images ne seraient pas commentées comme des documents d'histoire. Puisque l'auteur, lui, s'est appuyé sur des archives écrites et non pas sur des archives photographiques, en l'occurrence. Donc, du coup, ça aurait eu un côté un peu artificiel. On aurait fait du décor et de l'illustration au sens propre du terme. Et ça ne nous convenait pas. Voilà.
Vous aviez peur que ça casse un peu le rythme aussi?
Exactement, oui, ça aurait été un peu gênant. C'est vrai qu'on aurait pu le mettre en tête de chapitre, vous voyez, une petite illustration, mais il y a tellement de tableaux déjà, il y a tellement hors le texte, vous voyez, enfin, en plus du texte, donc on s'était dit qu'effectivement... Mais c'est une idée qu'on peut garder, en fait, typiquement dans un coin de notre tête, parce qu'on peut tout à fait, un jour, envisager de faire un ouvrage plus court, vous voyez, avec un fond, une reprise de certaines parties, peut-être même une réécriture, mais avec des vrais commentaires d'images, à partir donc des images de Saint-Marcel. Et c'est vrai que d'autres d'ailleurs, hein, puisqu'on a aussi d'autres fonds, puisque, comme on l'a dit, hein, l'histoire s'arrête au milieu du XXe siècle, et donc on a effectivement des fonds photographiques très importants qui permettraient d'aller, on va dire, de la période 1870 au milieu, donc aux années 40, 1940, sans difficulté, mais peut-être que c'est justement pour un autre ouvrage.
Dans le département des Alpes de Haute-Provence, il y a des vallées, il y a des plaines.
Oui.
On ne vit pas de manière différente selon dans quel canton on vit. Et dans le livre, ça se retranscrit comme ça aussi?
C'est un peu sa problématique de départ, parce que le livre s'appelle « La vie rurale en Haute-Provence ». En réalité, son habilitation à diriger des recherches, j'ai plus le titre exact en tête, mais étudier vraiment la notion de Piémont. Justement, comment le Piémont, qui est notre département, enfin cette aire géographique, a muté au cours des siècles. Et il est vraiment dans cette réflexion. Parce que l'intérêt de ce livre, c'est qu'Éric Fabre a une double formation. Il est non seulement historien, mais c'est aussi quelqu'un qui vient des sciences dures, hein, de tout ce qui est biologie, géographie. Et donc, il a une approche intéressante pour le département, pour la Haute-Provence, c'est qu'il envisage l'histoire sous son angle vraiment de l'histoire des paysages, histoire de l'environnement, et ça donne vraiment une spécificité à son travail qu'il faut vraiment relever.
Là, actuellement, on parle de climat. Est-ce qu'auparavant, il y avait des différences de climat également?
Alors, il en parle aussi, d'ailleurs. Hein.
C'est, oui, très important, ouais, bien sûr.
Très, très, très important. Ouais. Et les traces des mutations du climat dans le...
Ouais.
Ouais. Ça, c'est vraiment... ça fait partie de toutes ces données qu'il a su exploiter et qu'un historien plus classique n'aurait pas forcément pensé ou su exploiter, justement.
Voilà, oui, c'est vrai. Hein. Donc, c'est un écologue, en fait. Hein. Donc, du coup, il a effectivement une approche tout à fait originale, qui est à la fois très classique, hein, pour un historien, rien, et en même temps qui apporte une autre vision du territoire, hein, le fameux territoire de Piémont, qui est en fait un espace intermédiaire, hein, donc entre la plaine et la montagne, hein, par définition. Et donc la question, c'est finalement une des questions qui se pose, qui est quand même la question de l'ouvrage, c'est montrer effectivement l'évolution de la place de ce Piémont entre ces deux espaces, et avec une conclusion qui est un peu pessimiste, on va dire, mais ça, ça s'arrête au milieu du XXe siècle. Donc on a dépassé ce cadre chronologique. Et puis, c'est toujours intéressant dans ces livres de longue durée, en fait, c'est de voir qu'en fait, finalement, les choses ne sont jamais terminées en réalité. Alors, et même s'il y a des phases un peu négatives, il y a aussi des phases positives. Donc, il n'y a pas de déterminisme. Oui, donc, voilà.
Et depuis, on a changé de millénaire.
Voilà, et en plus, on a même dépassé ce cadre-là. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que ça pose vraiment la question derrière de la question du développement des territoires, en fait. Hein, et des territoires qui sont très particuliers, hein, de ces Piémonts, qu'il connaît bien parce que c'est aussi quelqu'un qui travaille sur les Pyrénées, et donc qui a ces problématiques-là aussi ailleurs, et qui du coup a des éléments comparatifs. Hein, voilà, c'est aussi tout ça est dans l'ouvrage et... est un élément à prendre en compte. Enfin, et on n'a pas dit, mais on a conservé évidemment le texte d'Éric Fabre, parce que c'est évidemment un respect de la production. Et puis surtout, si nous sommes les éditeurs, hein, donc le conseil départemental via les archives départementales, si nous sommes les éditeurs, le responsable quand même du contenu, c'est l'auteur. Et donc c'est à lui, hein, que d'ailleurs toutes les critiques doivent s'adresser, s'il y en a.
Vous êtes venu avec un disque qui peut paraître un petit peu incongru. C'est Diana Ross.
Oui, en effet, oui.
Vous avez choisi le morceau Love Hangover. Il y a une bonne explication.
Alors écoutez, oui, d'abord c'est plutôt agréable. Enfin, c'est un peu de douceur dans cette journée très froide et une voix chaude. Donc ça, je crois que c'est important. Et puis, alors en fait, l'explication, elle est un peu différente. On évoquait tout à l'heure les travaux qu'on fait aux archives départementales, puisque c'est la période, le mois de janvier, mais nous rouvrons donc la semaine prochaine. Et puis on est aussi dans une phase un peu de réflexion autour de la programmation culturelle qu'on va proposer dans les années à venir. Alors en fait, là, pour le moment, c'est assez simple. On est dans le programme centenaire de la guerre de 14-18, donc on inaugurera une prochaine exposition en septembre, donc autour du thème donc de la dernière année de guerre, qui devrait nous conduire normalement jusqu'à la fin de l'année 2018, puisque on s'arrêtera au moins au 11 novembre, on ira au moins jusqu'au 11 novembre 2018 et sans doute jusqu'en décembre. Donc la question après, qu'est-ce qu'on fait en 2019? Et puis en parallèle, on a une autre exposition itinérante qu'on va faire cette année et qu'on présentera aussi en septembre, qui est liée à une journée d'études que nous avons faite en décembre autour de ce qu'on appelle la matière et le bâti, et en l'occurrence sur les matériaux de construction, donc sur les bâtiments publics ou privés, sur des techniques, etc. Donc ça, c'est en cours et ça sera d'ailleurs une publication qui sera présentée normalement en septembre à l'occasion autour des journées du patrimoine.
Eh oui, les matériaux évoluent. Voilà. L'assemblage évolue également.
Voilà, exactement. Et donc, on a, ça va, en fait, des architectures classiques, on va dire, hein, en pierre taillée, etc., jusqu'à aux architectures de galets, hein, pour autour de Riez, etc. Et puis, l'emploi aussi d'autres techniques. Hein, donc, voilà. Donc, tout ça, donnera lieu à deux expositions qui seront sans doute présentées en parallèle. Mais qu'est-ce qu'on fait donc après, effectivement, quand on a terminé le programme centenaire, qui nous a quand même bien pris du temps, puisque ça fait depuis 2014 que nous sommes sur ce sujet. Et donc on a évoqué ensemble, donc avec Laure Franek, plusieurs possibilités. La première, l'exposition principale, j'en parlerai après, mais il y a effectivement Daina Ross. Alors pourquoi Daina Ross? En fait, alors c'est pas elle qu'évidemment, on va pas faire une exposition sur elle, évidemment. Ça, on aura tous compris. Certains, d'aucuns diront malheureusement, vous voyez. Mais en fait, ce qui nous a en fait, c'est une idée comme ça en l'air, c'est de faire une exposition autour des années 1970. Évidemment, dans
très riche.
Voilà, et dans les Alpes de Haute-Provence, de préférence, vous voyez, avec toujours un angle national, voire international, et puis un angle local. Donc ça, c'est vraiment, et ça serait une exposition qui serait une exposition itinérante. Hein. L'idée derrière, peut-être même, c'est de reproduire ce type d'exposition pour les autres années, hein, les années 50, les années 60, etc., pour faire quelque chose assez actuel, vous voyez, pour faire quelque chose un peu léger, sortir de la guerre de 14-18, et donc. Cette idée, en fait, hein, comment travaille-t-on? Parce que là, on est dans une période très récente, hein, les années 70. Pour les archivistes, c'est hier, en fait. Hein, c'est vraiment. Et donc, la question, c'est d'abord, est-ce qu'on a des archives qui nous permettent de le faire? Alors, la réponse est oui, évidemment. On a beaucoup d'archives des années 70, mais vraiment, sans doute, enfin, même des quantités considérables. Donc, la difficulté, ça sera justement de faire le tri dans tout ça. Et puis la deuxième question, c'est évidemment, c'est une question d'ambiance, c'est une question de mémoire, c'est une question d'histoire. C'est-à-dire que d'écouter ce genre de musique, c'est évidemment se replonger d'une certaine manière dans cette période et c'est un peu, retrouver un peu l'esprit. Parce que ce titre que j'ai choisi, hein, donc qui est dans une compilation, hein, qui date de 1993 de mémoire, qui est un titre de 76. Vous avez vérifié, donc on en est sûr. Voilà, c'est vraiment l'époque disco. Hein, c'est vraiment. Et puis surtout ce morceau-là est un peu une matrice de plein d'autres morceaux. On en parlait hier avec Laure Franek. Je me rappelle une chanteuse disco française, enfin qui chantait en France, dont j'ai perdu le nom d'ailleurs, immédiatement.
Qu'est-ce qu'elle chantait?
Alors, elle chantait effectivement de ce genre d'air, vous voyez, de boîte de nuit, vous voyez.
Régine.
Pas du tout. Non, pas du tout. Non, je vais retrouver son nom. Qui chantait des choses à peu près, vous voyez, sur le même air, sur le même rythme. C'était en fait un mannequin qu'on avait bombardé chanteuse, hein, je pense, qui était d'origine danoise, enfin d'un pays. Voilà. Mais le nom va me revenir, hein, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, donc c'est un peu l'idée de l'esprit. Après, c'est vrai que Vous savez, c'est toujours compliqué ces histoires d'exposition très proche de nous, parce que évidemment les visiteurs qui viendront, pour certains, auront connu cette période. Et donc il faut qu'ils retrouvent, vous voyez, il faut qu'ils retrouvent un petit peu l'esprit de cette période, mais l'esprit tel qu'ils en ont conservé dans leur mémoire, vous voyez. Et puis, en plus, entre-temps, entre tout ce qu'ils ont regardé à la télévision, vous voyez, ce qu'ils ont vu au cinéma, ce qu'ils ont lu, vous voyez, en fait, vous savez, c'est toujours le problème de la mémoire, hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une reconstruction, c'est un mélange de souvenirs personnels, de vécu, mais aussi de tout ce qui s'est passé après, qui se sont ajoutés, qui ont quelquefois éclairé des pans de notre vie qu'on n'avait pas compris à l'époque parce qu'on était trop petit ou parce qu'on était dans un autre contexte ou qu'on pensait avoir ou qu'on avait compris mais qu'on comprend autrement. Oui, enfin voilà. Donc tout ça est un jeu très compliqué. Donc il faut qu'on réussisse vraiment dans ce genre d'exposition qui sera une exposition itinérante, hein, c'est-à-dire en fait sur panneau, sans doute avec quelques reconstitutions quand même. Hein, on va essayer peut-être de reconstituer, je sais pas moi, une cuisine ou un salon, vous voyez, avec la télévision années 70.
Une discothèque.
Téléavia, on va quand même pas faire une discothèque, mais pourquoi pas, oui, pourquoi pas, à la limite. Peut-être même un fond musical, vous voyez. Ça, c'est un sujet intéressant, encore qu'on aurait des problèmes, ça serait un peu compliqué au niveau de la diffusion.
Avec la SACEM, oui.
Les droits d'auteur, en fait, hein, donc... paierait évidemment, hein, mais voilà, donc il faudrait régler tous ces problèmes-là. Mais c'est vrai que peut-être trouver, vous voyez, déjà trouver l'esprit. Puisque évidemment, quand vous faites les années 70, c'est pas les années 60, c'est pas les années 50, et le but n'est pas de montrer forcément ce qui s'est passé aussi dans les autres années. C'est de montrer, vous voyez, c'est de montrer vraiment les spécificités de cette période. Et c'est pour ça donc que la musique en fait partie. C'est vraiment. Alors vous allez me dire, c'est peut-être une question aussi d'âge, hein, parce que moi, pour moi, c'est mon adolescence évidemment, et donc du coup, ça me renvoie aussi à mes souvenirs. Hein, mais ça, c'est tout à fait normal. Alors, le but après, c'est justement de sortir de ça et de réussir à trouver effectivement cette ambiance qui est aussi une ambiance sonore, hein, qui n'est pas que le mobilier, les objets, l'histoire, les mutations agricoles, les mutations industrielles, etc. Oui, il y aura tous ces thèmes-là, la population, hein, les questions de...
Les vêtements.
Les vêtements, etc. Voilà. Pourquoi pas d'ailleurs imaginer un défilé, vous voyez, un peu.
À se ressortir les pattes d'Ef.
Oui, bah oui, les pattes d'Ef, les cols, je sais plus comment s'appelait, ces grands cols.
Pelle à tarte.
Ah, les pelles à tarte, voilà. Oui, exactement, oui. Donc, ouais, bah voilà, écoutez, on a un expert face à nous, et donc voilà, on pourrait. Voilà, mais c'est vrai, il faut trouver effectivement, vous voyez, toute cette ambiance qu'il faut. Alors après, on a, nous, des fonds photographiques très importants qui nous permettent de le faire. C'est vrai aussi que ça serait peut-être l'occasion de faire une collecte. Hein, moi, je sais que dans ma famille, vous savez, on faisait déjà des films Super 8, un peu. D'ailleurs, j'aurais peur qu'on les rediffuse aujourd'hui. Vous voyez, j'imagine le décalage serait tellement incroyable. Voilà, mais oui, peut-être, c'est peut-être aussi l'occasion que les habitants du département nous amènent des documents, soit nous les donnent, soit nous les prêtent pour numérisation, par exemple. Vous voyez, donc c'est toutes ces petites choses. Qui fait que on souhaite avoir une exposition un peu légère, parce que le thème principal qu'on va sans doute traiter après 2018, c'est l'affaire de Minici. Et alors, donc là, évidemment, on est dans un sujet très grave, parce qu'on a eu on a la chance d'avoir le mobilier. Hein, j'avais déjà évoqué cette question-là, mais ça a été dit là, récemment que de conserver donc une grande partie du mobilier ancien, donc du palais de justice, et en particulier donc la salle d'audience. Et donc l'idée serait de reconstituer dans notre espace principal cette salle d'audience, hein, puisqu'on a vraiment tous les meubles, ou presque, hein, il nous manque juste la barre des témoins et quelques petites choses. Et puis à côté, de traiter de l'affaire de Minici, non pas de refaire l'enquête, évidemment, c'est pas notre objectif, mais de voir justement comment elle a été traitée. C'est-à-dire, en fait, notre sujet serait le traitement de l'affaire de Minici. Vous voyez, hein, donc, son évolution depuis les origines de 1952, hein, j'ai vérifié hier soir, pour être sûr de ne pas de dire... de faire d'erreur, hein, puisque c'est la nuit du 4 au 5 août 1952, exactement. Jack Drummond, Anne et Elisabeth, hein, donc la fille. Hein, et donc cette affaire qui est évidemment extrêmement célèbre, qui donne lieu d'ailleurs tous les ans à une production, que ce soit écrite ou de visuel, voire cinématographique. Donc eh bien, on voudrait... se pencher dessus, mais dans la manière dont elle a été traitée, et en particulier donc par les médias, voilà, évidemment, hein, puisque je vous dis, ce n'est pas le but n'est pas de refaire l'enquête.
C'est toujours énigmatique. Et des témoignages de contemporains de 1952, vous avez pu en trouver ?
Alors nous, on a les dossiers, en fait. On a le dossier de l'affaire Dominici. Mais on est encore... en fait, la consultation n'est pas libre, hein, puisque... Il y a des règles, la règle des 75 ans hein, pour les archives judiciaires. Donc les gens qui viennent travailler sur l'affaire Dominici doivent demander une dérogation, hein, une autorisation de consulter les archives. Mais ça, c'est pour les documents produits par la justice. Mais il y a à côté d'autres documents. Donc ces documents, on ne pourrait pas les reproduire, on ne pourrait pas les montrer, évidemment. On peut en parler, évidemment, mais on ne peut pas les reproduire. En revanche, tout ce qui est le traitement médiatique, tout ce qui est public, en fait... peut tout à fait exposer. Il n'y a pas de difficulté autour de ça. Donc ça peut... Et comme la production est immense, il y a au début de l'année dernière, un réalisateur de documentaire qui était venu aux archives départementales pour faire des images en vue de faire un documentaire qui a été diffusé d'ailleurs, hein, et dont on a une copie, un documentaire très intéressant qui aborde aussi une thèse, hein, toujours, hein, tout le monde a une thèse hein, sur l'affaire Dominici, tout le monde a une idée de ce qui a pu se passer, et bien il a fait une grande partie de son documentaire à partir de la revue de presse qui était faite par le cabinet de la préfecture, qui est donc tout simplement des articles de journaux qui étaient découpés, qui étaient rangés par ordre chronologique, il y en a une quantité absolument considérable. Et donc oui, rien que déjà ces supports-là nous permettraient de traiter du sujet. Voilà. Donc ça sera sans doute l'exposition principale 2019.
Et au-delà des 75 ans, il y a des révélations qui pourraient être dévoilées, non ?
Je crois qu'il n'y a pas de... Je crois que tout a été publié, en fait. Alors certes, les documents originaux n'ont pas été publiés, mais il y a eu tellement de personnes qui ont travaillé sur l'affaire qu'il n'y a plus rien d'original. Et puis, vous savez, il n'y en a pas tellement de documents, finalement. Quand vous regardez le volume de pièces par rapport à une affaire contemporaine, hein, aujourd'hui, il y aurait une pièce remplie de documents. À l'époque, c'est quelques boîtes. C'est très peu, hein, en fait. Donc du coup, c'est assez simple de faire le tour de l'affaire à partir des pièces qui existent. Et je vous dis, elles ont été tellement, tellement consultées par des Français, par des Anglais, par des Américains, et d'autres chercheurs, en fait, hein, journalistes, etc., que franchement, je crois qu'il n'y a aucune révélation qui serait contenue dans les documents, en fait. Hein.
Et vous parliez des documents. Le travail d'investigation a changé, parce qu'il y a la numérisation actuelle.
Oui, bien sûr, oui.
À l'époque, il pouvait y avoir des failles par rapport à ça ?
Non, mais je crois que c'est... Non, c'est une enquête qui a été très sérieusement menée, mais on était, comment dire, c'est pas la même époque, hein, on est quand même dans l'après-guerre, les méthodes sont très élaborées, il y a une police scientifique, hein, il ne faut pas croire, hein, il y a des expertises qui sont faites, etc., avec les moyens évidemment du bord, des expertises qui existaient déjà au 18e, hein, c'est très ancien, en fait la police scientifique elle existe depuis très longtemps, mais on fait évidemment avec ce qu'on a, vous voyez aujourd'hui on a l'ADN, évidemment les choses auraient été très différentes s'il y avait eu l'ADN pour l'affaire Dominici, vous voyez, évidemment, mais... chaque affaire est le produit de son contingent, hein, contingente, est produit d'un contexte. Et donc à l'époque, évidemment, c'est sûr que si on avait à refaire l'enquête aujourd'hui, enfin s'il y avait une enquête avec les moyens actuels, c'est évidemment, on aurait sans doute peut-être, hein, des réponses plus précises et plus approfondies. Mais on ne peut pas. Vous savez, je parlais d'une affaire moi, sur laquelle j'ai travaillé, qui est de 1818, hein, qui était dans un autre département, on avait toutes les pièces. Il y avait plus de 150 témoignages qui avaient été recueillis à l'époque. Eh bien, cette affaire qui ne représentait pas un volume très important, mais qui quand même avait donné lieu à des expertises même, hein, donc, parce qu'il y avait eu un crime, et donc des deux accusés, eh bien, j'avais travaillé dessus. Je pensais un peu naïvement avoir trouvé la résolution de l'affaire. Enfin, disons, j'avais une idée, une hypothèse assez crédible sur cette affaire-là. Et j'en étais, comme c'était un projet que je menais avec le procureur de la République de ce département, j'avais évoqué cette question avec lui, et il m'avait répondu que c'était évidemment impossible d'avoir une hypothèse crédible avec les éléments dont on pouvait disposer aujourd'hui. Vous voyez, donc, voilà, je crois que c'est très compliqué. Ce sont des affaires très compliquées. Et il y a eu tellement, dans des affaires comme ça, des témoignages, des contre-témoignages, des vérités, des contre-vérités, que c'est évidemment... Et que si on n'a pas les moyens de s'appuyer peut-être sur des éléments techniques, parce que c'est ça la police scientifique, hein, c'est l'idée que justement on sort du témoignage, hein, on sort des aveux, on prouve la culpabilité de quelqu'un sans même l'interroger, vous voyez, avec les éléments matériels. On cherche en fait la vérité, vous voyez. Eh bien, quand on n'a pas forcément tous ces éléments-là, c'est évidemment très difficile de s'en sortir.
On vous retrouve le troisième jeudi de février.
Oui.
Tous les deux.
Voilà, écoutez, hein, c'est avec beaucoup de plaisir.
Merci.
Thank you.